Mais à la mi-juillet 2022, vous avez lancé cette plateforme dont vous avez parlé, la plateforme VSS, pour les signalements contre les violences sexuelles, sexistes, les discriminations et situations de harcèlement, qui est disponible en ligne, et je le dis pour nos auditeurs, à signalement.univ-poitiers.fr. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de manière un peu technique ce que c'est que cette plateforme, comment ça fonctionne et comment nos étudiants peuvent y participer?
Oui, et puis moi j'aurais aussi une autre question. Est-ce que cette plateforme a déjà porté un petit peu ses fruits? Parce que ça fait 2 ans maintenant qu'elle a été lancée. Et aussi, est-ce qu'il y a un travail à côté à faire pour que les étudiants et étudiantes osent écrire sur cette plateforme? Parce que j'imagine qu'il y a ça aussi derrière.
Alors, la première question, c'était comment ça fonctionne en fait. Alors, si vous voulez, ça s'inscrit dans ce que j'appelle moi, le dispositif de signalement. Donc, toute personne, qu'elle soit témoin ou victime, qu'elle soit membre de l'université ou pas, peut saisir la plateforme de l'université dès lors que ça touche l'université d'une façon ou d'une autre. C'est accessible non pas par l'intranet, mais vraiment sur l'internet. Donc, vous avez donné l'adresse, il y a les petites cartes, on fait vraiment beaucoup de communication là-dessus. C'est sécurisé et confidentiel. Nous ne sommes que 3 personnes à avoir accès aux messages qui arrivent. Et encore, on reçoit une alerte dans nos messageries universitaires. Il faut qu'on aille saisir un mot de passe pour avoir accès au signalement qui est donné. Les 3 personnes, c'est alors, pour l'instant, moi en tant que chargée de mission égalité et diversité, la référente égalité qui fait partie du réseau là, qu'on a constitué de l'UFR Santé, pour qu'il y ait quelqu'un qui a un œil un peu médical. Et puis, puisque cette plateforme est en fait à double entrée, ça concerne aussi les risques psychosociaux pour le personnel, la personne qui est référente des risques psychosociaux, c'est comme ça, conseillère prévention. Voilà, ces 3 personnes-là sont susceptibles d'être alertées par la plateforme. On lit le message, selon que c'est tel ou tel contenu, ça part du côté des risques psychosociaux, et après, voilà, moi, je ne le vois plus, ou ça va du côté des VSS, des violences sexistes et sexuelles ou discrimination. Discrimination si ça touche les étudiants et étudiantes. En fonction de... Donc on va solliciter 2 membres de la cellule d'écoute qui a été constituée. Les membres de la cellule d'écoute sont tous et toutes des volontaires qui ont été formés. Je les sollicite pour éviter que ce soit des membres de la composante, enfin qu'il n'y ait pas et puis savoir si elles sont suffisamment en forme aussi pour écouter, parce que parfois, et ça se comprend, la personne peut dire non, là aujourd'hui c'est trop, je ne peux pas, ou je ne suis pas disponible, hein, parce que ce sont des collègues qui enseignent, qui sont administratifs, hein, voilà, ils prennent sur leur temps pour ça. L'écoute est faite et à la suite de, on prend les notes pendant l'écoute, on fait relire ça à la personne qui a fait le signalement pour qu'elle puisse modifier, dire si ça correspond à ce qu'elle a voulu dire. Et ensuite, en fonction de la gravité, ben, soit ça se règle à l'échelle locale et puis bon, voilà, les choses reprennent leur cours et tout va bien. Soit c'est plus grave et dans ce cas-là, c'est le conseiller juridique le service juridique qui est sollicité et on réfléchit aux suites à donner. La présidente peut être sollicitée pour qu'une enquête administrative soit diligentée. Si elle donne son feu vert, l'enquête est menée par d'autres personnes que la cellule. Hein. On compartimente absolument les choses pour qu'il n'y ait pas de double... Enfin, on ne peut pas être jugé parti. Et si les termes de l'enquête vérifient que donnent suffisamment d'éléments, à nouveau la présidente est sollicitée pour qu'il y ait une saisine de la section disciplinaire, côté usager-usagère ou côté personnel. Et voilà. Et donc la question que vous posiez, c'est... Alors, j'oublie quand même une chose, ça c'est le côté disciplinaire. Voilà, il peut y avoir des situations où, je prends des cas où des étudiantes ont fait état de viols qui se sont passés à l'extérieur, mais qui concernaient un étudiant, par exemple. Et dans ce cas-là, la présidente fait une saisine du procureur, qui ensuite prend les choses en main du point de vue pénal. Voilà. On oriente aussi du côté du suivi psychologique. Enfin, on essaie d'aider les gens autant que possible. Quoi. Et il faut reconnaître que nous avons beaucoup de chance avec le centre Anguilla-Bory, on a le centre de psychotraumatologie. On a une entrée privilégiée. Et quand on sent qu'on a affaire à notamment des étudiantes qui viennent de subir des choses très graves et assez récentes, hop, elles ont quasiment un passage prioritaire et elles sont prises en charge assez rapidement et c'est important. De même, on a maintenant un contact très fructueux avec la psychologue du commissariat du centre-ville de Poitiers. Ça permet d'accompagner plus doucement les dépôts de plainte parce que c'est pas facile d'aller faire un dépôt de plainte. Et puis, on a notre signature de convention avec le parquet de Poitiers, de Niort, qui a été quand même... nous sommes la première université de Nouvelle-Aquitaine à avoir signé cette convention-là. Il y en a d'autres hein, en France, mais pour la Nouvelle-Aquitaine, nous sommes la première université. Donc, je pense qu'on peut, voilà, on peut en être fiers. Et la question que vous posiez, c'était de savoir si ça avait porté des fruits, c'est ça ? Bah oui, oui, oui. Je ne sais pas si... Voilà, c'est ça. Heureusement, pas malheureusement. Alors, heureusement, ça veut dire que les choses ne restent pas impunies. Et malheureusement, ça veut dire qu'il y a des choses graves qui se sont passées. Voilà. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne remontent pas, mais que petit à petit, les langues... On a quand même des signalements qui ont été faits, qui portaient sur des situations d'il y a quelques temps. Et voilà, ça s'est résolu malgré tout. Il faut continuer ce travail-là et surtout il faut que la confiance s'instaure et que toute la communauté ait bien conscience qu'il se passe quelque chose une fois qu'il y a eu un signalement. Parce qu'il y a ce discours, ouais d'accord, on fait le signalement, c'est bien joli, mais après, il n'y a rien qui se passe. Mais si, si, si. Alors mon petit bilan là, 2023-2024, de mémoire. Donc 38 situations, 26 concernent la population étudiante, victime ou auteur. Parmi ces 26 qui concernent la population étudiante, il y en a 13 qui concernent des faits de harcèlement moral, puisqu'on constate que ça, c'est quelque chose qui monte en puissance. Et 11 concernent les VSS et 2 des situations de racisme. Ça a donné lieu, alors je vous donne les faits les plus marquants, hein, une exclusion de 3 mois avec 6 mois avec sursis pour un étudiant, une interdiction d'exercer toute activité de recherche ou d'enseignement à l'université pendant 10 ans, voilà, par exemple, hein, ce sont quand même des choses fortes. Côté personnel, il y a eu des situations, il y en a 11 qui mettent un membre du personnel avec un ou plusieurs étudiants et étudiantes, avec des gravités très graduées. Hein. Ça peut être des propos sexistes dans un cours. Alors, c'est vraiment pas bien, c'est vraiment pas acceptable. Mais disons que vu l'échelle de possibilités, c'est moins grave. Donc là, on... Voilà. Donc là, c'est un rappel au principe déontologique par le directeur de composante, éventuellement la DRH, voilà, et puis on espère que les choses se règlent. Mais il y a eu quand même, tout récemment, là, une sanction qui a été 3 ans d'interdiction de tout exercice d'enseignement et de recherche dans tout établissement public avec suspension totale du salaire pendant 3 ans. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien.
Est-ce que vous avez rencontré ce problème-là, que peut-être il n'y a pas assez de personnes qui arrivent à délier leur langue et à prendre la parole sur ce genre de choses, parce que c'est aussi un traumatisme et du coup, c'est difficile d'en parler ?
Oui, vous avez tout à fait raison. On le constate parce qu'il y a des signalements anonymes. Et les signalements anonymes, alors en l'état actuel de la plateforme, on constate le signalement, mais ça s'arrête là. La nouvelle plateforme qui va entrer en fonction, là, en action dans pas très longtemps, j'espère, elle va permettre de chatter sans lever l'anonymat de la personne. Et on peut espérer qu'à force de discuter, à un moment donné, la confiance s'instaure et que la personne se dise « Ok, j'y vais et je donne mon identité ». Donc il y a ça, il y a les signalements anonymes qui signalent bien que les personnes ont envie, mais en même temps sont hésitantes. Il y a celles qui ne font pas du tout de signalement et restent avec leurs blessures parce qu'elles se disent « il va y avoir des représailles, ça va se retourner contre moi ». Et là, c'est parce que vous allez en parler, parce que votre podcast va peut-être en convaincre, parce qu'on va faire de la communication sur les bilans de la plateforme, ça c'est vraiment important. que petit à petit les choses vont, enfin que ça va être plus rassurant pour la communauté. Mais on sait qu'il y aura toujours des gens qui seront dans la défiance et c'est un long travail. Après, il y a d'autres portes d'entrée. Parfois, c'est le service de santé étudiant qui m'appelle en me disant « je t'envoie une étudiante ».
Merci beaucoup. Ah oui, est-ce qu'il y a d'autres mesures par l'Université de Poitiers dans le cadre de la mission égalité et diversité que vous souhaitiez aborder, notamment peut-être vos objectifs pour le projet 2024-2026?
Alors, je voudrais dire un mot sur quelque chose qui vient d'être évoqué de manière très allusive à l'instant, mais qui est un élément sur lequel l'Université de Poitiers, je pense, est en pointe. C'est la lutte contre le harcèlement moral dans la population étudiante. Il y a 2 ans, quand on a pris conscience de ça, on était complètement démunis. Autant le ministère nous dit, pour les VSS, faites des plateformes, vous avez des formations, etc. Autant sur le harcèlement, rien. Mais vraiment rien. Donc on a cherché partout comment on pouvait trouver, comment remédier à ça, parce que les sections disciplinaires, bah, oui, c'est ce qu'on a fait au début, hein, envoyer devant les sections disciplinaires. La section disciplinaire, elle sanctionne, mais le harceleur, il sort, il est toujours harceleur, il va recommencer ailleurs. Donc on a, par chance, on a pu prendre contact avec la Ligue de l'enseignement de la Vienne, où il y a une personne qui travaillait déjà sur ces données-là, mais du côté du primaire, du secondaire, et qui tombait des nues en disant « Quoi, à l'université ?» Et ben oui, à l'université aussi. Et donc, on a constitué ce qu'on appelle une brigade. Ce sont 2 personnes extérieures qui interviennent. On les fait intervenir là où il y a eu des problèmes de harcèlement, on le sait. Et ils interviennent en disant qu'ils viennent travailler, sensibiliser aux compétences psychosociales. Et généralement, l'atelier porte ses fruits. Alors, c'est pas miraculeux, mais ça ouvre un peu les cerveaux, les cœurs, et c'est le début de l'empathie, parce que c'est ça le problème, hein. Maturité et empathie. Et puis, on les fait intervenir aussi en amont pour sensibiliser soit des promotions où on sait que par expérience, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mixité ou des choses comme ça, et ça peut se produire. Donc là, c'est de la prévention. Et cette année, on a lancé... Alors là, par exemple, notre brigade, je pense qu'elle est unique en France. Hein. Voilà. Et on a la chance, ces 2 personnes sont très jeunes. Donc on peut très facilement les prendre pour des étudiants et étudiantes. Et je pense que c'est un contact bien meilleur. Voilà. Ça se passe très naturellement entre le groupe étudiant et puis ces 2 personnes-là. On a également lancé cette année un groupe sur la base du volontariat d'étudiants et étudiantes, ambassadeurs, ambassadrices contre le harcèlement. Alors, ils vont choisir leur nom, hein, c'est eux qui vont choisir ça. Ils sont en cours de formation, ils vont bénéficier de plusieurs séances d'ateliers toujours menées par ces 2 personnes-là. Et ce seront nos vigies sur le terrain, la même chose que ce que j'ai créé avec le réseau des référents égalité dans les composantes. On essaye de le faire côté étudiant, sauf qu'il y a 30 000 étudiants et là ils sont 29 nos ambassadeurs. Bon, mais on se dit que c'est la première année et que ça va monter en puissance. De même, tous les membres de bureau des associations étudiantes labellisées UP doivent suivre des sensibilisations, alors au VSS, et on ajoute les compétences psychosociales maintenant. Donc sur cette question du harcèlement, qui, je le sais, hein, est une question qui est maintenant ouverte dans toutes les universités, tout le monde fait ce constat-là, et c'est dramatique parce que ça prend des proportions difficilement gérables. Sur ce domaine-là, là vraiment on fait un travail de fond, même si c'est de fourmis. Donc c'est des fourmis de fond, mais ça va, voilà, ça commence comme ça. On forme aussi le personnel, on propose 2 sessions par an, non même 4, puisqu'il y a 2 au premier semestre et 2 au deuxième semestre, pour le personnel qui souhaite, sur la base du volontariat, avec l'idée de savoir détecter les situations de harcèlement et puis commencer à y apporter des réponses et ensuite prévenir la cellule. Il y a ça. Et puis, on va avoir le prochain mandat. Donc, la prochaine vice-présidente aura apporté dans le programme, le projet, la question du congé menstruel qu'on souhaite faire avancer côté personnel et côté étudiant. Alors, il y a plusieurs universités françaises qui l'ont du côté des étudiants et étudiantes. Et c'est très bien. Et là-dessus, on est encore en retrait. Pour l'instant, côté personnel, ça n'existe pas. Donc, on va essayer de faire les deux. Là, actuellement, tourne une exposition qui s'appelle « Sans, S-A-N-G, honte », ce que ce matin, j'ai installé en droit. Vous y êtes allé? Ah, c'est formidable, bravo. La semaine dernière, elle était à l'IUT. La semaine prochaine, elle sera en santé. Ensuite, elle ira à l'ENSIP en lettres et langues et elle finira ici à la présidence. Donc tout ça, c'est pour sensibiliser aux questions d'endométriose, voilà, la question du congé menstruel. À mon avis, ça sera un élément important aussi pour la lutte contre les stéréotypes. Parce que tout se tient, quoi.
Et justement, à propos des congés menstruels, selon Le Monde, en octobre 2024, elles ne sont que 7 universités à proposer cette nouvelle mesure. Une étudiante à l'université de Bordeaux-Montaigne témoigne. C'est une vraie victoire pour nous, les étudiantes, atteintes de règles très douloureuses. Le congé menstruel permet que les règles soient un motif valable d'absence. C'est un grand stress en moins dans les études, dit-elle. Est-ce que l'Université de Poitiers pourrait être alors dans les 10 premières à mettre en place ce dispositif? Écoutons tout de suite l'avis de la présidente à ce sujet.
Sur ce congé menstruel, on aurait pu lancer en fin de mandat le congé menstruel pour les étudiantes. Mais en fait, je n'ai pas souhaité pour plusieurs raisons. Et une qui me tenait particulièrement à cœur, c'est que je ne souhaitais pas qu'on le développe cela chez l'étudiant sans penser au personnel. Et donc, effectivement, la nouvelle collègue qui prendra la place de Catherine dans mon équipe deuxième mandat aura pour mission de déployer cette réflexion, enfin cet engagement sur les deux volets de notre communauté universitaire, personnel et étudiant. Dans le deuxième mandat, il va falloir poursuivre, c'est-à-dire le porter au plus haut de la gouvernance. On va passer d'une chargée de mission à une vice-présidente. Donc ça témoigne bien de la façon dont on se saisit de ces questions-là demain dans le programme des 4 années à venir. On va, j'espère, réussir à réduire un peu les écarts de rémunération qui existent aujourd'hui entre femmes et hommes. Au sein de l'établissement, non pas pour des raisons de salaire, évidemment une grille salariale est une grille salariale, mais pour des raisons de primes. Les primes sont données lorsqu'on prend des responsabilités et force est de constater que les femmes en prennent moins que les hommes. Donc on a tenté déjà de ne serait-ce, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui on attribue une prime aux enseignants-chercheurs qui s'appelle le régime indemnitaire pour les enseignants-chercheurs. Et dans ce paquet-là, qu'on appelle RIPEC, il y a une prime individuelle qui est liée à l'engagement de nos collègues sur la formation, la recherche, la vie collective, sciences et sociétés, l'Europe, etc., etc. Donc les collègues candidates. Et aujourd'hui, alors c'est pas grâce à l'Université de Poitiers, mais grâce à cette nouvelle prime qui n'est plus centrée exclusivement sur la recherche, on voit bien que beaucoup plus de collègues femmes accèdent à cette prime que ce n'était auparavant, parce qu'avant, les primes étaient attribuées uniquement sur l'activité dite recherche de l'enseignant-chercheur. Aujourd'hui, on est à peu près à 50%, sauf erreur de ma part, de primes pour les femmes et pour les hommes, ce qui n'était vraiment pas le cas avant, pas tout à fait.
On retrouve l'écart, le nombre de femmes candidates, de femmes professeurs candidates reste un quart, trois quarts, par rapport à trois quarts d'hommes, il y a un quart de femmes qui candidatent. Et au final, on a fait ça la semaine dernière, ça reste à peu près à hauteur... le niveau de résultat correspond au niveau de pourcentage dans les candidatures. Donc c'est stable. Mais comme il n'y a pas assez de femmes chez les professeurs...
On voit quand même, comparativement à la prime d'avant, qui était vraiment centrée recherche, qu'il y a quand même une démocratisation à cette prime. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'il y a plus de responsabilités prises en compte. Et ça, c'est vraiment un enjeu et il faut qu'on poursuive... Faut qu'on poursuive dans ce sens. Donc voilà, c'était quelques exemples d'actions qu'on va poursuivre et puis qu'on va renforcer, évidemment. Mais notez bien, on passe dans le mandat 1 d'une chargée de mission, dans le mandat 2 à une vice-présidente en charge de ces questions. Donc il y a une volonté vraiment une vraie volonté de l'inscrire dans la trajectoire de notre université.
Eh bien, merci pour cette interview vraiment très intéressante. Lilian, est-ce que tu as des choses à rajouter ?
Non, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous accueillir, d'avoir pris le temps de discuter avec nous de ces sujets qui sont extrêmement importants aujourd'hui et qui sont centraux à la fois dans notre société ainsi que évidemment dans notre vie universitaire. Donc merci encore d'avoir pris le temps de nous accueillir pour discuter de ces sujets dont les étudiants et les étudiantes veulent parler.
Bon, maintenant revenons-en à nos moutons. On a discuté de multiples mesures avec la présidente et la chargée de mission qui visent à la réduction des inégalités et notamment à la prise en charge et à l'écoute des étudiants, étudiantes et membres du personnel. En effet, beaucoup de communication à propos du site de signalement, c'est une très bonne chose. Mais nous sommes ensuite allés voir les personnes qui, chaque jour, bénéficient peut-être sans le savoir de cette prise en charge. Retrouvez tout de suite nos interviews au plus proche des étudiants, étudiantes et du personnel. Donc aujourd'hui on est avec
Pablo
et Mohamed.
Enfin, est-ce que vous avez déjà entendu parler, j'imagine, des violences sexistes et sexuelles ?
Ouais, on en a entendu parler pas mal de fois.
Ouais, tous les jours on en entend parler.
Et est-ce que vous saviez aussi que, j'imagine, à la faculté ça arrive aussi parfois ?
On le sait pas personnellement, mais on s'en doute en vrai.
Dans un lieu où il y a autant de monde et tout, c'est triste, mais il y a forcément ce genre de choses qui arrivent.
Ok, et est-ce que vous savez si l'université a mis en place des choses pour lutter contre ces violences ou pas ?
Non, ça je te mens pas, je sais pas, frère.
Moi j'ai entendu des réunions pour parler de ça, pour en discuter, et après j'en sais pas plus.
Ok, et du coup, pour au cas où, il y a une plateforme qui s'appelle signalement.unif-poitiers.fr qui a été mise en place en 2022. Et avec ça, vous pouvez témoigner si jamais vous êtes soit témoin, soit victime de ces violences-là. Et comme ça, vous pouvez en fait dénoncer à l'échelle de l'université. Et ça reste dans l'université. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le sujet ?
Pas spécialement. Après, c'est bien qu'il y ait que les autres puissent signaler aussi, parce que parfois, c'est pas toujours les victimes qui parlent. Donc, c'est bien d'avoir mis ça en place. Juste, toi, tu l'as su comment pour ça ? Parce que du coup, moi, je me suis rappelé.
Moi, c'était par rapport aux mails. On reçoit régulièrement des mails et je l'ai lu. Et voilà. Et ouais.
Il y a des affiches ou pas ?
Ouais, il y en a quelques-unes.
Ouais, c'est bien.
Donc, aujourd'hui, on est avec
Marie.
Et vous travaillez ici à l'Université de Poitiers ?
Oui, c'est ça.
Ok. Donc, on avait une première question. Est-ce que vous savez ce que c'est les VSS ? Et j'imagine que vous savez qu'y en a aussi à la faculté, que ce soit parmi les étudiants, mais aussi parmi les membres du personnel. Du coup, l'université a mis en place des choses à propos de ça. Est-ce que vous en avez entendu parler ou pas ?
Alors déjà, je suis pas au courant de toutes les actions qui sont en cours, je sais qu'il y a en ce moment il y a une campagne d'affichage pour essayer de prévenir, pour essayer de dire aux étudiantes, ça c'est des signes précurseurs, faites attention à telle chose, qui sont affichés un petit peu partout sur le campus. Il y en a dans les toilettes par exemple, parce que c'est des endroits où on est tout seul et on a le temps de les lire, et on n'a pas forcément le regard de quelqu'un d'autre qui peut mettre la pression dessus. Campagne d'affichage. Après, je me demande s'il n'y a pas un numéro à appeler ou quelque chose comme ça. Ça, je ne suis pas trop sûre. Mais je sais qu'en tant que personnel, souvent, on a des rappels par rapport à ça. Et on nous répète assez régulièrement qu'il faut... Enfin, si on est témoin de quelque chose, que ce soit du côté de nos collègues ou du côté des étudiants, il faut qu'on le rapporte à nos supérieurs directement pour pouvoir après faire quelque chose. Ça, on le répète très souvent. Après, les étudiants, s'il y a un problème, ils peuvent toujours venir voir un membre du personnel, parce qu'on est là pour les assister en fait. Donc, s'il y a quelque chose à rapporter, si les gens n'ont pas la possibilité d'aller sur internet directement sur le coup, ils peuvent aller voir directement quelqu'un qui travaille à l'université et on va s'en occuper, quoi.
Ok.
Et est-ce que donc vous avez suivi des formations pour accompagner ces étudiants qui viendraient demander ou c'est dans votre cursus général en tant que membre de l'université ?
Ça fait pas partie d'un cursus général. En fait, là, il me semble que c'est en train de se monter, en fait. C'est des formations un peu informelles. On a souvent des mails comme ça qui nous disent des procédures à suivre, des choses comme ça. Mais ça serait bien pour les prochaines années que ce soit un peu plus formalisé, d'avoir par exemple une journée de formation un petit peu sur le sujet. Mais pour l'instant, ça n'existe pas encore.
Une journée de formation, justement, ne pourrait-on pas prendre exemple sur les cycles primaires et secondaires? En effet, en 2015 a été officiellement lancée une journée nationale de lutte contre le harcèlement dans toutes les écoles de France. On pourrait se demander si cette sensibilisation n'est pas aussi à mener à l'université, puisque, force est de constater, le harcèlement touche tout le monde, même les plus grands. Donc on est avec...
Kitty, ça va?
Et vous étudiez en quoi?
En psychologie, troisième année.
Troisième année de psychologie aussi.
Ok, et on entend beaucoup parler notamment des musiciens, etc., des artistes, auteurs, et qui sont dénoncés d'avoir des violences envers d'autres personnes, mais ça peut aussi dépasser ce cadre-là, et à la faculté, il peut y avoir aussi ce genre de violence. Et c'est pour ça que l'université essaye aussi d'œuvrer contre ça. Et est-ce que vous, en tant qu'étudiant, vous avez déjà vu, je ne sais pas, soit des affiches, soit des mails?
Je dirais qu'il y a toujours des affiches de prévention, mais on n'y fait pas toujours attention. On ne va pas forcément appeler le numéro.
J'ai rien d'autre à ajouter sur ce qu'il vient de dire.
Est-ce que vous avez d'autres mesures, par exemple, que peut faire l'université pour aider ces personnes qui sont victimes ou témoins de violences sexuelles et sexistes?
J'avoue que je suis très peu renseignée sur ce que l'université propose pour aider à ce service, donc je ne connais pas grand-chose sur ça.
Moi, en fait, à part des affiches, j'ai jamais vraiment vu d'autres mesures qui pourraient être plus frappantes,
ouais,
on va dire.
Des genres de réunions où, quand il y a des... Ouais, on n'a jamais eu ça. Tu sais, généralement, des fois, quand on commence à un CM et qu'il y a de la prévention qui vient, enfin, des gens qui viennent expliquer, on n'a jamais eu ça. Ouais, c'est ça, sur les VSS.
Il peut y avoir des espèces de réunions sur l'harcèlement, mais pas forcément sur les violences sexuelles, j'ai remarqué.
Je pense qu'il y a des affiches qui ont été mises, mais c'est vrai qu'on y porte très peu d'attention. En vrai.
Si tu vois harcèlement, en gros, ou violence sexuelle, mais tu ne dis pas forcément « Tiens, je vais prendre ce numéro pour une copine » ou « Voilà ».
Ou aide à l'étudiant, ou des trucs comme ça. C'était plus ce genre d'affiches, moi, que je remarque personnellement. Truc sur l'harcèlement, j'ai jamais vu. Hein.
Oui, est-ce que vous pensez que l'université devrait faire quelque chose pour communiquer plus sur ces questions-là et sur les projets qu'elle met en place?
Oui. Complètement. Et vu que je pense que c'est un sujet assez difficile d'en parler, là, le fait de vachement montrer, comme vous avez dit, que c'est très sécurisé et que ça sort pas de là, ça pourrait peut-être aider des personnes à témoigner.
Un but aussi de soutien, parce que finalement, tu cherches à avoir du soutien envers les autres personnes qui ont peut-être subi ça. Et franchement, c'est pas mal. C'est bien pour la santé mentale, je dirais. Enfin, voilà.
Peut-être le fait de se confier à quelqu'un que tu connais pas, c'est plus facile que de se confier à une personne proche, parce que tu peux vraiment te livrer et sans... Je sais pas s'il y a possibilité que les personnes se rencontrent après, mais peut-être...
Oui, absolument. Absolument, c'est prévu. Si après vous souhaitez révéler votre identité et avoir un rendez-vous, etc., il y a vraiment des personnes qui sont élues et formées pour vraiment vous accompagner anonymement et qui, après, peuvent vous rediriger vers des services particuliers, par exemple, en cas de violence grave. On peut vous rediriger vers certaines personnes au CHU de Poitiers qui ont des qualifications aussi médicales. Mais encore une fois, c'est seulement si vous le souhaitez et si vous l'acceptez. On ne vous forcera jamais à faire quelque chose que vous ne voulez pas, en fait.
Donc bonjour, aujourd'hui on est avec...
Jeanne.
Et donc vous êtes à la fois étudiante et membre du personnel de l'Université de Poitiers?
C'est ça, je suis en deuxième année de master et je suis monitrice à la BU.
Ok, et du coup, on voulait savoir d'abord si jamais vous avez entendu parler des violences sexistes et sexuelles, notamment au sein de l'université.
J'en ai pas mal entendu parler, notamment par les mails de la mission Égalité-Diversité, par Anne Debrosse et plus récemment par Shirley Nicholas, qui organisent pas mal de choses, qui font pas mal de prévention sur le sujet.
Ok, et du coup, est-ce que vous savez un petit peu aussi ce que c'est le rôle de ces référents-là au sein de l'université?
J'imagine que ce sont les personnes à qui s'adresser en cas de... Si jamais on assiste à quelque chose qui pourrait être considéré comme des violences sexistes ou sexuelles. Et j'imagine que ce sont aussi les référents de confiance si jamais on ne sait pas réellement à qui s'adresser.
Est-ce que vous savez un petit peu les dispositifs que met en place l'université pour aider les personnes qui sont victimes ou témoins de violences sexuelles et sexistes?
J'avoue qu'à part la campagne d'affiches avec les numéros à appeler, je ne suis pas réellement au courant.
Alors en fait, l'université met en place un site à signalement.univ-poitiers.fr qui permet anonymement à toute personne qui est victime ou témoin de violences sexuelles et sexistes de pouvoir témoigner et ensuite de révéler son identité si elle le souhaite. Et c'est un dispositif qui va permettre à un nombre très restreint de personnes qui sont formées à ces questions de pouvoir intervenir et aider les personnes qui en ont besoin.
Ok, je ne savais pas du tout, donc j'aurais appris quelque chose et je ferai passer le mot.
Et du coup...
Maintenant que vous savez ça, est-ce que vous pensez que ce site a été assez médiatisé dans le cadre de l'université, et est-ce que vous auriez des pistes qu'on soit plus au courant de ce site internet-là ?
Ben, je pense qu'il n'a pas du tout été... Il n'y a pas eu beaucoup de com, ou en tout cas pas assez ou pas bien sur ce site-là, parce que ce soit en tant qu'étudiante, en tant que monitrice à la BU ou même en tant que stagiaire dans un labo de recherche, j'en ai jamais entendu parler.
Il est temps à présent de conclure notre investigation. Nous avons, durant ce podcast, rencontré Madame la Présidente de l'Université de Poitiers, qui nous a fait part de son parcours et des difficultés qu'elle a pu rencontrer tout au long de sa carrière. Nous avons par la suite dialogué avec Madame Ranou, la chargée de mission Égalité Femmes-Hommes à l'Université de Poitiers, qui nous a donné plus de précisions sur la politique mise en place pour lutter contre les inégalités des sexes. Enfin, nous sommes allés à la rencontre des étudiants, des étudiantes et du personnel de l'université pour constater l'efficacité de ces mesures et recueillir leurs témoignages. Un constat clair ressort de cette investigation. Les inégalités entre les hommes et les femmes persistent au sein de l'Université de Poitiers. Cependant, des mesures sont mises en place et l'université semble se transformer, petit à petit, pour tendre vers plus d'égalité. C'est donc par un constat grave, mais avec de l'espoir, que nous concluons ce podcast. Nous remercions sincèrement Madame Virginie Laval, Madame Ranou, ainsi que tous nos intervenants et intervenantes pour leur temps et participation à cette enquête. Nous remercions également à Madame Anne Debrosse, référente égalité-diversité à l'UFR Lettres et Langues, pour son soutien et son accompagnement tout au long de ce projet. Merci à vous également, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés sur ce sujet qui nous touche tous et toutes. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes susceptibles d'y trouver un intérêt, et n'hésitez pas à témoigner sur signalement.univ-poitiers.fr si vous êtes victime ou témoin de VSS.